Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Beethoven en son temps, aujourd'hui, la musique de chambre. La virtuosité des croches tourbillonnantes du final du trio en sol majeur pour violon alto et violoncelle, ici interprété par l'excellent trio Zimmermann. Beethoven n'a que 27 ans et nous nous laissons entraîner par cette énergie inextinguible, ce sens théâtral, cet art consommé des modulations surprises qui seront toute sa vie sa principale marque de fabrique. Ce trio, Beethoven en est à l'époque très satisfait. L'œuvre est en revanche un peu moins du goût du grand Haydn, qui aurait déclaré à son sujet « Nous l'aurions fait autrement ». Il faut dire qu'apparemment, les cours ne se sont pas très bien passés entre ces deux-là, et que si Haydn a bien sûr été immédiatement frappé du talent hors du commun de son éphémère élève, il supportait assez peu sa personnalité rugueuse, son caractère ombrageux. C'est le comte Waldstein, l'un des protecteurs de Beethoven, qui l'avait incité à aller étudier à Vienne auprès de papa Haydn. La lettre de recommandation qu'il lui écrit à cette occasion est restée dans l'histoire. « Cher Beethoven, vous partez ces jours-ci à Vienne pour exaucer un vœu depuis longtemps exprimé. Le génie de Mozart se lamente et pleure encore la mort de celui qui l'abritait. Il a trouvé refuge chez l'inépuisable Haydn, mais c'est un abri temporaire. Par une application incessante, recevez des mains de Haydn l'esprit de Mozart. » Beethoven n'a eu qu'une seule fois l'occasion, à l'âge de 16 ans, de rencontrer Mozart et de jouer en sa présence. Il se rattrapera en écrivant plusieurs séries de variations sur ses thèmes d'opéra, notamment ceux de la flûte enchantée. Les 12 variations sur l'air de Papageno « Ein Mädchen oder Weibchen » sont écrites pour violoncelle et piano, mais il faudrait plutôt parler de variations pour piano avec accompagnement de violoncelle, tant Beethoven réserve au clavier l'essentiel des idées mélodiques et de la virtuosité. Dès le début, le thème principal est ainsi entièrement énoncé par le piano, le violoncelle se contentant la plupart du temps de le doubler à la tierce avant de se taire pendant toute la première variation. On a presque l'impression d'une œuvre écrite pour un élève à qui l'on donnerait de temps en temps à jouer quelques bribes de violoncelle pour mieux mettre en valeur l'imagination virtuose de son professeur. Ce n'est que dans les deux dernières variations que l'élève gagne en assurance, prenant enfin toute sa place aux côtés du maître pianiste. Thank you. le joli phrasé du pianiste András Schiff, accompagné du violoncelliste Miklós Perényi, dans ses 12 variations de Beethoven sur un air de la flûte enchantée de Mozart. Alors parmi les modèles qui ont inspiré Ludwig, il y a donc Mozart et Haydn, mais aussi bien sûr Jean-Sébastien Bach. C'est ainsi que Beethoven commence en 1817 l'arrangement pour quatuor à cordes de l'une des fugues du clavier bien tempéré du grand Jean-Sébastien, signant la même année une fugue pour quintette à cordes dont l'étonnante polyphonie se fonde sur un thème étrangement capricorne, comme si Beethoven essayait de sortir de l'influence de Jean-Sébastien Bach pour créer la fugue beethovenienne, dont l'aboutissement sera quelques années plus tard la grande fugue pour quatuor à cordes. Alors c'est certes un peu laborieux, mais assez singulier cependant pour qu'on ait envie de l'écouter. Et puis, c'est du Beethoven, et ça ne dure même pas 2 minutes. Le quatuor Isaïe accueillait l'altiste Shuly Vatermann pour cette fugue de Beethoven en Ré majeur opus 137, écrite pour un quintet à cordes composé de 2 violons, 2 altos et 1 violoncelle. Et en parlant de formation instrumentale, il en existe une particulièrement inattendue dans l'œuvre de Beethoven, un quatuor de trombone. Déjà en 1808, le compositeur avait été le premier à introduire le trombone dans une symphonie, en l'occurrence la symphonie pastorale et la 5e symphonie. 4 ans plus tard, Beethoven écrit lors d'un séjour à Linz, en Autriche, à l'occasion de la fête des morts du 2 novembre, 3 pièces pour quatuor de trombone qu'il nomme équales, terme signifiant à voix égale. La première de ces équales sera d'ailleurs transcrite pour chœur et chantée lors des funérailles de Beethoven en 1827. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. La voici dans sa version originale pour 4 trombones, interprétée par les membres de l'Ottetto Italiano.
Thank you.
de Beethoven. Nous écoutions la première des trois équales pour quatuor de trombone, dont vous aurez, je l'espère, goûté le hiératisme et la grave solennité, l'une de ces pièces que l'on nommait à l'époque pièce de bord de tombe. Alors on voit souvent Beethoven comme un compositeur écrivant librement, selon l'inspiration du moment, symphonies, sonates et concertos, mais il faut rappeler qu'une bonne moitié de son œuvre était directement liée à la vie sociale de son temps. Et c'est pourquoi je vous propose d'évoquer maintenant ce que l'on appelle en allemand la « Hausmusik », un terme que l'on pourrait traduire en français par « musique à la maison ». C'était une pratique particulièrement répandue à Vienne, où l'on prenait plaisir à se réunir entre amateurs, déchiffrant chez les uns et les autres quintettes, trios, sextuors et toutes les formations possibles et imaginables que l'on peut trouver dans la musique de chambre. Un esprit aimable et convivial que l'on perçoit tout à fait dans la sérénade pour flûte, violon et alto opus 25, dont la joliesse pimpante démontre à l'envi que Beethoven pouvait être à l'occasion d'excellente humeur. La flûte d'Emmanuel Pahut, le violon de Daishin Kashimoto et l'alto d'Amihai Grosch se mêlaient harmonieusement dans cette charmante sérénade en trio écrite par Beethoven à l'âge de 25 ans. Alors parmi les autres instruments à qui Beethoven a consacré une œuvre de musique de chambre, il y a bien sûr le cor. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le cor n'était pas tout à fait l'instrument que nous connaissons aujourd'hui. Sans piston, il ne pouvait en effet jouer les notes que d'une seule tonalité, sauf à recourir à des sons bouchés obtenus en plaçant la main dans le pavillon de l'instrument. Mais ces sons bouchés, vous allez l'entendre dans quelques instants, avaient nécessairement une sonorité quelque peu étrange, cuivrée, presque nasillarde. C'est pour un célèbre corniste de l'époque, Giovanni Punto, que Beethoven écrit, au dernier moment et en une seule journée selon son élève et ami Ferdinand Ries, une magnifique sonate dont le compositeur tiendra lui-même la partie de piano le jour du concert. Le duo suscite un enthousiasme presque illégal. Une récente ordonnance sur les théâtres interdisait en effet les applaudissements trop bruyants et les bis, ce qui n'empêchera pas Beethoven et Punto de rejouer l'œuvre depuis le début.
Thank you.
Anthony Halstead au cor et Robert Levin au clavier interprétaient avec une remarquable vaillance le premier mouvement de la sonate pour cor et piano de Beethoven, un duo qui, je l'espère, aura eu sur scène autant de succès que Punto et Beethoven en leur temps. Et vous aurez sans doute remarqué le son si particulier du pianoforte d'époque, particulier en tout cas pour nos oreilles modernes, proche de celui du clavecin dans les nuances fortes et de la harpe dans les nuances douces, ce dont Beethoven se plaignait parfois. Je ne suis d'ailleurs pas certain que Beethoven ait été un inconditionnel de la harpe. En dehors d'une brève apparition dans le ballet Les Créatures de Prométhée, il n'a en effet consacré qu'une seule œuvre à cet instrument, et encore, il admettait qu'elle puisse également être jouée au piano. Une œuvre au charme naïf, un peu à l'image des paroles de la chanson choisie par Beethoven pour son thème varié. La fille du fermier était bien jolie, on l'appelait Babelli. Elle avait deux nattes qui brillaient comme de l'or, et c'est pourquoi Dursley l'aimait si fort. Six variations aussi agréables à écouter que sans prétention, avec une mention particulière pour la jolie et mélancolique troisième variation dans le mode mineur. la merveilleuse harpiste espagnole Marisa Robles interprétait la seule pièce qu'a consacrée Beethoven à son instrument, une série de 6 variations sur un chant populaire suisse. Et pour rester du côté des instruments à cordes pincées, je dois vous parler maintenant des compositions qu'a consacrées Beethoven à la mandoline. Au départ, c'est de son amitié avec le célèbre mandoliniste Wenzel Krumholtz que naît l'intérêt de Beethoven pour cet instrument. Un intérêt considérablement renforcé par le fait que la belle Joséphine von Clary, 19 ans, rencontrée lors d'un séjour à Prague en 1796, pratiquait elle aussi assidûment la mandoline. Il faut dire que cet instrument proche de la guitare est alors assez en vogue auprès des jeunes femmes de la bonne société en cette fin du XVIIIe siècle. Beethoven consacrera 4 œuvres à Joséphine, à la mandoline, bien sûr. En voici sans doute la plus virtuose et la plus insouciante, avec son refrain véloce et entraînant. Malheureusement pour Beethoven, l'écriture de cette sonatine pour Joséphine von Clary ne suffira pas à gagner son cœur. Elle se marie l'année suivante avec un autre. Mais cette nouvelle déception amoureuse, une de plus, il les collectionne, n'empêche pas notre cher Ludwig de garder son sens de l'humour, Beethoven étant d'après ses contemporains un ours mal léché, aussi bourru que facétieux. Il me semble même que Beethoven est l'un des grands spécialistes de l'humour en musique, inventant une nouvelle forme, le scherzo, dont il parsème allègrement ses sonates, ses symphonies et ses trios. Des pages pleines d'esprit, de malice, dans lesquelles Beethoven donne libre cours à toute son imagination. Le premier de ces fameux scherzos se trouve dans son trio opus 1 pour piano, violon et violoncelle, une œuvre écrite en 1794 à l'âge de 23 ans. À chaque fois que j'écoute ce scherzo, j'ai vraiment l'impression que tout le monde chuchote, se racontant de bonnes blagues avant d'exploser de rire. On y entend d'un bout à l'autre un spirituel et savoureux petit motif, tatia tatata, ponctué régulièrement d'une formule conclusive de 4 notes dans laquelle j'entends ha 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 ha. Thank you. Pauline Chenet au piano, Clémence de Forceville au violon et Angèle Le Gaza au violoncelle, les trois instrumentistes du trio Sora s'en donnaient à cœur joie pour cette véritable plaisanterie musicale. Oui, au fond, c'est bien cela. On pourrait rebaptiser tous les scherzos de Beethoven du nom de plaisanterie musicale. Avant lui, le mouvement de divertissement, en général le troisième, d'une symphonie, d'une sonate, d'un trio ou d'un quatuor, était systématiquement un menuet. Alors on peut presque dire que Beethoven aura définitivement enterré cette danse de l'Ancien Régime en lui substituant le scherzo. Et au tournant du siècle, en 1800, tout un symbole, il place à la fois un scherzo et un menuet dans son septuor pour cordes et vents. Un menuet que Beethoven reprend d'une de ses sonates pour piano, mais qu'il destine cette fois à une formation tout à fait originale, un basson, une clarinette, un violon, un alto, un cor, un violoncelle et une contrebasse. Un morceau jovial et bienveillant qui tient d'ailleurs autant du Ländler que du menuet, un peu dans l'esprit des danses de Mödling que nous avons écoutées lors du premier volet de cette série beethovenienne.
Thank you.
Les musiciens de l'Octuor de France interprétaient le menuet du célèbre Septuor de Beethoven, une œuvre mêlant les quatre instruments à cordes, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse, au timbre complémentaire de la clarinette, du cor et du basson. Dédié à l'impératrice Marie-Thérèse, les six mouvements du Septuor feront un véritable tabac auprès des musiciens amateurs viennois, à tel point qu'à la fin de sa vie, Beethoven faisait la grimace dès qu'on mentionnait cette œuvre, maugréant « En ce temps-là, je ne savais pas composer ». C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Stéphane Touvenin. À la semaine prochaine.